Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 mai 2017.
La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique.
Emmanuel Macron, hier soir, devant des milliers de ses partisans réunis dans la cour du Louvre, après sa victoire à la présidentielle en France, au second tour qu'il opposait à la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen, du Front National. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. L'essentiel de cette édition spéciale sera consacré aux résultats de cette élection, remportée par un nouveau venu en politique.
J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, à la coopération internationale, au respect des engagements pris en matière de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme.
Emmanuel Macron, dans son discours de victoire, il s'est engagé à se battre de toutes ses forces contre les divisions qui minent la France. À 39 ans, Monsieur Macron va devenir le plus jeune président de l'histoire de France après avoir remporté 65,82% des voix face à Marine Le Pen, 34,18%, selon les résultats quasi définitifs du ministère de l'Intérieur lundi matin. Entre l'abstention, 25,38%, et les votes blancs et nuls, un peu plus de 4 millions, plus d'un Français sur trois a en fait refusé de choisir dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un niveau record. Monsieur Macron a également dit avoir entendu la colère de ceux qui ont voté Front National. Si son élection est un grand soulagement pour l'Europe, reconnaît le New York Times, le nouveau président français prend la tête d'une nation profondément divisée, tout comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres grandes démocraties. Et le score de Madame Le Pen prouve pour le grand quotidien américain l'importance du désespoir de ceux qu'on appelle les oubliés. Compte tenu de ce contexte du Brexit, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et de la montée du courant populiste en Europe, j'ai demandé au professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York ce que représentait la victoire de M. Macron.
Compte tenu de ce contexte, je crois que les démocrates ont vu les résultats avec, je dirais, un grand soulagement. C'est vrai qu'après le Brexit, après la victoire des forces populistes ici aux États-Unis, on a d'abord regardé les élections hollandaises, où il était craint à un moment donné que le parti populiste xénophobe, islamophobe, devienne le premier parti de Hollande. Cela ne s'est pas produit. Dès lors que ces élections étaient finies, les yeux étaient un peu braqués sur la France. On savait que le parti d'extrême droite xénophobe, le Front National, s'était beaucoup développé. À un moment donné, on pensait même qu'il serait le premier parti après le premier tour et qu'il s'agissait pour les autres de se classer en second pour pouvoir aller au deuxième tour avec lui. Une bonne nouvelle, ça a été au premier tour que ce parti n'est pas arrivé premier. Au deuxième tour, évidemment, Madame Le Pen a perdu, donc la victoire est revenue à la démocratie, disons, et à l'idéal républicain. Donc il y a un certain soulagement de ce point de vue. On se rend compte qu'il y a quand même une mobilisation contre les forces populistes qui, à un moment donné, avaient semblé avoir le vent en poupe.
Alors, professeur, maintenant, il s'agit de savoir comment M. Macron va faire quand il s'agit du rôle traditionnel de la France et des opérations militaires de la France en zone sahélo-saharienne. Comment voyez-vous la suite?
De ce point de vue-là, le rôle que la France jouait traditionnellement en Afrique, je pense qu'il y aura une certaine forme de continuité, encore que M. Macron ait parlé de l'Afrique d'une manière différente. Il a parlé d'une Afrique qui avait l'avenir pour elle, d'une Afrique où les classes moyennes avaient fortement monté, une Afrique nouvelle urbaine et qui ne demandait qu'un partenariat. Donc il y a un certain discours qui a changé. En revanche, il est bien évident que la présence militaire dans la zone sahélo-sudanienne pour des raisons de lutte contre le terrorisme, c'est une situation de fait qui ne va pas inverser du jour au lendemain, d'autant qu'il y a une demande des États eux-mêmes. On ne voit pas le Mali qui est encore sous la menace souhaiter que la France retire des troupes, par exemple. Donc on peut penser qu'il y a là une situation de fait, que donc M. Macron va hériter de cette situation et qu'il va être dans l'obligation de continuer la même politique, je pense.
Le professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York. Sévèrement battu, Marine Le Pen, qui a mené une campagne agressive contre l'immigration, l'euro, la mondialisation et l'Union européenne, s'est cependant félicitée du résultat historique et massif de son parti. Celle qui s'est présentée comme la candidate du peuple, misée sur la même vague qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche et conduit la Grande-Bretagne à voter pour la sortie de l'Union européenne, mais elle n'a pas réussi son pari. La victoire d'Emmanuel Macron a été saluée par plusieurs dirigeants européens inquiets de la poussée des nationalistes en Europe, dont la chancelière allemande Angela Merkel, la britannique Theresa May ou le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le président Donald Trump a lui aussi adressé sur Twitter ses félicitations à M. Macron pour sa grande victoire d'aujourd'hui. La victoire d'Emmanuel Macron inspire déjà un candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, Noël Tchiani. Pour ce haut fonctionnaire de la Banque mondiale, cette victoire est bien la preuve qu'il ne faut pas particulièrement appartenir à un parti pour être élu. Voici ce qu'il a dit à Christian Lusakweno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Effectivement, je crois que le modèle Macron donne une référence qui est très appréciable. Emmanuel Macron n'appartenait pas au grand parti politique donc français. Et j'estime que dans des pays comme la République démocratique du Congo, les partis politiques aujourd'hui ne signifient absolument rien. Les partis sont souvent liés à des individualités. Et si on a un projet de société, un programme de développement qui se justifie, on peut gagner l'élection présidentielle dans un pays comme le mien.
Et c'est cela votre plan, vous qui vous êtes déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle?
Ma vision, c'est de pouvoir rassembler tout le monde. Les gens, dans les cas des partis politiques, je voudrais attirer le plus possible des partis politiques qui adhèrent à ma vision de développement. Mais si on ne peut pas avoir des partis politiques qui se mettent donc derrière nous, je voudrais inviter le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme derrière ce projet de développement, donc le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction de la RDC. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons pouvoir gagner l'élection présidentielle et nous allons gérer le Congo. Nous allons fondamentalement transformer le destin de notre pays.
La différence entre Noël Tchiani et Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron, on a vu, il a été ministre quelques années, on a vu ce qu'il est capable de faire. Mais Noël Tchiani au Congo, dans aucun parti, jamais de fonction officielle. Est-ce que ce sera pour vous chose aussi aisée que le nouveau président élu en France?
Une très bonne question. Peut-être que les Congolais n'ont pas suivi l'histoire de Noël Tchiani de très près. Je voudrais vous inviter donc à regarder comment nous avons créé le franc congolais. C'est Noël Tchiani qui avait présidé la commission, qui avait co-présidé la commission de réforme de la monnaie, qui avait conçu le franc congolais donc à l'époque. Donc c'était une contribution très importante donc à la République démocratique du Congo. Mais au-delà de cela, je suis un fonctionnaire international. Je suis fonctionnaire à la Banque mondiale, une banque à laquelle appartient la République démocratique du Congo. Dans le cadre de mes activités donc à la Banque mondiale, j'ai œuvré au développement de plusieurs pays, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest. Je vous invite à aller voir les îles du Cap-Vert, la République du Sénégal. Je vous invite à aller voir donc le Mali. Tous ces pays-là ont dû bénéficier de l'expertise de Noël Tchiani et j'estime que cette expertise s'applique partout. Je peux donc l'appliquer aussi au développement de la République démocratique du Congo.
Noël Tchiani, candidat à la présidentielle en RDC, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a recueilli ses réactions de citoyens dans la capitale nigérienne.
Je pense que ces élections, d'abord, prouvent à la face du monde que tout est possible. C'est un jeune de 39 ans qui remporte les élections. Il a déclassé toute cette vieille classe. Aujourd'hui aussi, son élection a mis fin à la peur qu'avaient d'abord les Français et ensuite les autres. Donc c'est en cela que nous saluons vraiment le sens élevé du patriotisme du peuple français pour avoir su faire vraiment la différence entre la peste et le choléra. Aujourd'hui, avec l'élection de Macron, vous savez, les dirigeants français, ils ont tout à fait été clairs. Ils ont dit que la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Emmanuel Macron, dans sa politique, en tout cas, il va continuer à défendre l'intérêt de la France. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'Africains, de chercher à tirer notre épingle du jeu en défendant l'intérêt du Niger.
C'est une victoire de la démocratie sur la tyrannie, parce que nous pouvons le dire, Marine Le Pen représente tout ce qu'il y a de tyran dans ce monde. Ça montre aussi que les Français savent ce qu'ils veulent, qu'ils sont rattachés à ces valeurs démocratiques et que c'est des hommes de droits de l'homme. Et en tant qu'Africains, nous pensons que Emmanuel Macron va continuer la promotion de la démocratie en Afrique et amener nos chefs d'État aussi à réfléchir en ce qui concerne les attentes de leurs concitoyens.
Je ne pense pas s'il y aura vraiment trop de changements. C'est vrai que Manuel, c'est un jeune. On peut espérer sur lui. C'est le plus jeune des présidents. Peut-être que lui, il fera un peu de changement vis-à-vis vraiment de l'Afrique, surtout sur le plan économique.
Au Tchad, les citoyens interrogés par notre correspondant André Kodmajingar se disent tous contents de la défaite de Marine Le Pen parce qu'elle est, et je cite, « raciste ».
Je suis pour lui, mais pas pour Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle, c'est français, c'est ça son problème.
Je suis très content de ce vote, parce que mon candidat était élu, et puis il est tout pour l'Afrique. Sans ségrégation, c'est un homme impeccable, il mérite d'être le président de la France. L'avantage particulier en tant que Tchadien, nous les Tchadiens, on a fait pour l'Afrique et pour la France aussi. On a intervenu partout, on mérite d'être aidé par la France.
Je suis contente parce que Marine Le Pen a échoué à ça. Parce que quand Hillary Clinton faisait sa candidature aux États-Unis, elle aussi elle n'a pas soutenu, donc ça me réjouit. En tout cas, je vois en lui un homme, il peut arranger le chat. Par rapport à une femme, mais tout Marine Le Pen, elle est trop raciste. Elle est comme de la trône. Moi, je ne l'aime pas. Ah oui.
La sagesse a pris le dessus sur la bêtise, parce que Marine Le Pen, c'est la haine. J'estime que c'est le meilleur choix que les Français ont fait aujourd'hui. De toute façon, je ne voyais pas Marine Le Pen être élue en France. Le Front National, c'est un parti qui est né comme ça, juste pour jongler un peu. Mais ce n'est pas un parti que les Français portent dans leur cœur, parce que c'est contraire aux principes et la mentalité française. La France prône la liberté et l'égalité. On ne peut pas élire quelqu'un qui n'aime personne. C'est de créer une guerre civile, quoi. Marine Le Pen, si elle passait, c'était une guerre civile.
Dès le début même, je savais déjà que celle-là ne pouvait passer. Mais la France, c'est les intérêts. Alors que moi, en tant que Tchadien, je voudrais que les Français fassent tout pour que la vie des Tchadiens soit meilleure. Parce que c'est eux, nos colonisateurs. La lutte contre Boko Haram, c'est bien. Mais la population, qu'elle vive aussi bien.
La France n'est pas là pour s'occuper de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être indépendante. Tant qu'on n'aura pas l'indépendance économique, on ne peut pas bâtir l'Afrique. C'est une bataille juridique, c'est pas une bataille militaire. Comment veux-tu que la personne qui t'a colonisé va t'aider?
À Bangui, en Centrafrique, nous dit notre correspondant Freeman Sipila, les avis sont partagés.
J'ai vu que Macron, c'est quelqu'un qui veut que la libéralisation au niveau de la France, lui, il veut que la France vraiment soit toujours en contact avec le monde, avec l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très content d'écouter qu'il est devenu le président de la République en France. La liberté qui triomphe aujourd'hui. Et je vois que c'est la mondialisation.
Moi, je supporte Madame Marine Le Pen, mais malheureusement, avec ce choix français, je ne peux qu'incliner devant tout ce choix. Mais vous savez que Madame Marine Le Pen est une dame très, très, très idéologique. Son idéologie est beaucoup plus patriotique. Vraiment, je suis désolé pour cette défaite de Madame Marine Le Pen.
Et je respecte ce choix parce que il revient de droit à tous les Français de choisir qui doit les diriger. Donc, bien que j'ai un penchant pour Macron, mais ça ne veut pas dire qu'en devenant président aujourd'hui de la France, que tout va changer en République centrafricaine. Un message fort qu'on a lancé déjà aux jeunes pour leur prouver que même un jeune peut diriger une République.
Je suis centrafricain, donc je ne suis pas trop intéressé par les trucs de la France, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Moi, je voudrais d'abord féliciter les Français pour ce choix, parce que c'est vraiment un choix qui les tient à cœur. Donc, je suis pour Macron parce que c'est un homme très optimiste. Il a des ambitions très réalistes.
Je trouve sa politique un peu nouvelle et voilà, ça peut apporter de changements et voilà.
Macron nous avait présenté des plans, à savoir beaucoup de choses, et je crois qu'il a bien mérité.
Voilà pour ce mini spécial sur la victoire d'Emmanuel Macron en France.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant au reste de l'actualité. Au Mali, attaque terroriste à Al-Moustara contre une position de l'armée nationale. Le bilan provisoire est de 7 soldats tués, 17 blessés graves, 16 portés disparus. Cette attaque porte la marque de la nouvelle alliance terroriste que dirige Iyad Aghali, nous dit Kassim Traoré.
Al-Moustras est situé dans le cercle de Bourem, à 150 km de la ville de Gao. C'est dans cette localité que la position des militaires maliens a été attaquée très tôt le dimanche 7 mai 2017. C'est une voiture kamikaze qui a foncé sur la position des FAMA en détruisant deux véhicules. Si certains soldats ont replié sur Bourem, d'autres par contre sont restés et tenaient la ville avant l'arrivée du renfort en provenance de Gao. Le poste de l'armée malienne a été attaqué à Tarkin, à 15 km d'Almoustrasville. Le bilan provisoire est de 7 soldats maliens tués, 17 grièvement blessés, 16 portés disparus, 3 pick-up et des munitions emportées. Le réseau téléphonique de la localité a été fortement perturbé, ce qui n'a pas facilité la tâche aux soldats maliens. Malgré tout, la force française de l'opération Barkhane a pu évacuer plusieurs blessés graves sur Gao. Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que la localité d'Almoustras est attaqué par des individus armés non identifiés. Le 25 mars dernier, 3 soldats maliens ont été tués, 4 autres blessés, dans une attaque contre les checkpoints de l'armée malienne à Al-Moustras, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est parti hier soir à Londres pour des examens médicaux, a annoncé la présidence quelques instants après avoir reçu 82 lycéennes de Chibok libérées par le groupe djihadiste Boko Haram. Le président Buhari avait décidé de partir dans l'après-midi, mais a finalement repoussé son départ après l'arrivée des 82 filles de Chibok, a déclaré son porte-parole Femi Adesina. Le porte-parole s'exprimait après des semaines de spéculation sur la santé du président Buhari, qui est âgé de 74 ans. Dakar et Pékin ont une parfaite convergence de vues sur les grands dossiers de la politique internationale, a affirmé hier le chef de la diplomatie sénégalaise à l'occasion de la visite au Sénégal du vice-président chinois Li Yuanqiao. Monsieur Qian a de son côté évoqué une coopération fructueuse entre les deux pays selon ses propos traduits en français par une interprète. Pékin et Dakar ont rétabli leurs relations diplomatiques en 2005 après un divorce de près de 10 ans dû à la reconnaissance de Taïwan par le Sénégal. Depuis, la Chine multiplie les annonces de dons, prêts, projets de coopération dans ce pays d'Afrique francophone qui a ces dernières années diversifié ses partenaires commerciaux en se tournant vers les pays arabes et asiatiques. L'ancien procureur militaire de la République démocratique du Congo, le colonel Charles Alamba Mungako, condamné à mort en 2004, est décédé dans une prison de Kinshasa, a-t-on appris hier de sources concordantes. Le colonel Alamba a été condamné à mort par la haute cour militaire de RDC en octobre 2004 avec 10 autres personnes pour l'assassinat du directeur des ressources humaines de la Direction générale des impôts, Steve Nyambo, en septembre 2003. En Côte d'Ivoire, et précisément à Abidjan, la capitale économique où vivent plus de 5 millions de personnes, ce loger est devenu un véritable casse-tête pour les populations. Le coût des loyers est jugé exorbitant et le gouvernement a mis en place une politique de logements sociaux qui connaît cependant des difficultés. À Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Quand vous trouvez un loyer quelconque, on vous dit 10 mois d'avance. En plus de cela, il faut ajouter l'eau, l'électricité et chercher à manger pour les enfants et tout ça. Mais où allons-nous? Le logement en Côte d'Ivoire, il est vraiment cher.
Le logement en Côte d'Ivoire coûte cher. Le sentiment de Dou Sam, ce sexagénaire à la retraite qui vit à Yopougon avec sa famille, est partagé par de nombreux Ivoiriens comme Soumaoro Mamadou, un homme d'affaires.
Il y a une carence véritable. Les loyers sont fixés comme ça. Le gars, il se lève, il fixe ce qu'il veut. Ça apprend nous à laisser.
Pour un logement confortable de 3 pièces, il faut débourser au moins 150 000 francs CFA dans des communes comme Yopougon, Kokodi ou Markouri, sans compter la caution et l'avance exigée par les propriétaires de maisons. Doussam pointe un doigt accusateur vers l'État.
L'État ne fait qu'augmenter les prix, donc on ne peut pas en vouloir aux pauvres propriétaires. Aujourd'hui, un sac de ciment, je ne sais plus combien il coûte en Abidjan, mais si le monsieur réussit à construire, qui me dit de payer sa maison à 70 000 francs, si je veux vivre dans le luxe, je suis obligé de payer, auquel cas je dors dans la rue.
Lors de la campagne électorale en vue de la présidentielle de 2010, Alassane Ouattara avait fait de l'accès au logement une de ses priorités. Mais 6 ans après, le constat est triste selon Marius Okomoué, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire.
Nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce que c'est suscité et réveillé en nous nos angoisses, nos peines, nos mécontentements. Même dans la politique actuelle des logements qu'on a dit sociaux, ceux-mêmes qui sont déséconomiquement faibles n'ont pas accès à ces maisons. Les mêmes qui sont DG, PDG, PCA et j'en passe, ce sont eux qui mettent à la disposition des usagers les économiquement faibles s'entend et bien des maisons en location.
Face aux difficultés d'accès au logement, certaines corporations s'organisent. C'est le cas notamment des commerçants. Soumaoro Farikou de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI.
Nous avons signé une convention avec une structure privée ici pour l'acquisition de 100 000 lots pour nos adhérents. Nous avons eu des partenaires canadiens et ces lots seront faits en fonction du pouvoir d'achat de chaque catégorie de commerçants.
Selon le gouvernement ivoirien, le déficit en logement est de 400 000 logements par an pour l'ensemble du pays, dont 200 000 pour la seule ville d'Abidjan. Le 1er mai dernier, lors de la fête du travail, les syndicats ivoiriens ont tous dénoncé devant le président Ouattara les difficultés d'accès au logement. Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
La difficulté d'accéder à l'eau potable est notée ces derniers temps dans presque tous les quartiers périphériques de la capitale Bissau, où les femmes ont recours maintenant à des puits traditionnels, nous dit Noura Mankali.
Cette préoccupation de la pénurie d'eau potable au niveau de la capitale Bissau a été manifestée à la voix de la mairie par Aïcha Sano, responsable d'une famille.
L'accès à l'eau est difficile en ce moment. Quand on arrive au mois de mai, il n'y a pas d'eau dans les robinets et les puits se tarissent. Et tu vois beaucoup de gens s'agglomérer autour des puits à la recherche d'eau. Et des fois, tu ne parviens même pas à trouver de l'eau pour cuisiner, ni se laver, surtout dans ce quartier militaire, pour même aller au travail, principalement amener les enfants à l'école. Le gros problème, c'est d'avoir de l'eau pour pouvoir les habiller afin qu'ils puissent aller à l'école.
Face à cette dure situation, ces responsables ont lancé un vibrant appel aux autorités compétentes pour minimiser la souffrance de la population bissau-guinéenne.
Nous demandons à nos autorités compétentes de nous aider à avoir de l'eau, car on recommande de boire de l'eau potable, mais on n'a même pas de l'eau de pluie, à plus forte raison du robinet. L'appel que je laisserai à nos autorités compétentes est qu'elles s'efforcent pour plus travailler pour la population. Il y a des quartiers ici à Bissau qui n'ont pas ce privilège. Nous, le peuple, nous avons voté pour eux avec une grande confiance pour que les autorités fassent leur travail. et je leur demande de mieux travailler afin d'améliorer la vie des Bissau-Guinéens.
On rappelle que le ministre d'État de l'Énergie et de l'Industrie, Florentino Mendes Pereira, avait présidé la semaine dernière le lancement de la première pierre pour l'installation des tuyaux de distribution d'eau potable, dont le projet fait partie de la stratégie du gouvernement soutenue par la Banque mondiale, dont l'objectif est principalement de protéger les plus pauvres en vue de rétablir un minimum de services de base et la reprise économique. Mendes Pereira estime que le projet va contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté, promouvoir la prospérité commune et permettre l'accès à l'eau potable aux quartiers périphériques de la capitale. Nouaman Kelly Bissau, VOA Afrique.
Les sports pour terminer, Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Athlétisme pour commencer, Doha au Qatar a abrité la première étape de la Ligue de Diamants.
Oui, le premier grand meeting de la saison et les Africains ont plutôt fait bonne prestation. Le Sud-Africain Akane Simbine a créé la surprise en remportant le 100 mètres en 9 secondes 99 centièmes devant les médaillés olympiques de Rio, l'Américain Justin Gatlin et le Canadien André De Grasse. Autre performance sud-africaine à noter, celle de la double championne olympique Caster Semenya qui remporte au relais mais le 800 mètres en signant la meilleure performance mondiale de l'année en 1 minute 56 secondes. Troisième place par contre sur 200 mètres pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou. Une distance remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson.
Au Mali, le championnat a repris après avoir été interrompu début mars.
Ce football, faut le rappeler, était suspendu par la FIFA après la dissolution de la fédération par le ministère des Sports. Une solution était trouvée par la suite et un accord a été signé. Le championnat a donc repris avec la 7e journée. Le Stade Malien a été accroché par l'ASB un partout. Et puis, notons entre autres la victoire surprise de l'US Bungouni 2-0 face à l'AS Real de Bamako ou encore la large victoire 5-1 de LCBA contre Dougou Olofila. En clôture de cette 7e journée, l'AC Djoliba joue Black Star et puis le choc Club Olympique de Bamako 11 créateurs.
En Côte d'Ivoire, le championnat a connu sa 20e journée et le leader ASEC est tombé à domicile.
Oui, les Mimos se sont inclinés devant FC San Pedro 1-0 avec 37 points. Les jaunes et noirs maintiennent 5 points d'écart sur leur poursuivant direct, l'équipe de Williamsville, également vaincue 1-0 par le Sporting Club de Gagnoa. 13e journée au Cameroun et coup d'arrêt pour Eding, accroché par APGS, un but partout. Le club de la Lekki est toujours leader puisque ses poursuivants immédiats ont tous été battus. Notons la lourde défaite de l'UMS de Loum à Garoua contre Coton Sport 4-1 et la défaite du Stade Renard 3-2 sur la pelouse des As de Douala. Et puis fin de la phase aller des playoffs en RDC. Et la SV Club de Kinshasa s'offre le tout puissant Mazembe de Lubumbashi dans le Classico. Score 1-0. Malgré cette défaite, les Corbeaux sont toujours en tête au classement avec 12 points devant le Daring Club Motéba Pembe 11 points, mais qui a un match en retard de même pour V Club qui est classé 4e avec 5 points.
Plus qu'une journée et ce sera la fin du championnat en Tunisie.
Le mano à mano se poursuit entre l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile sportive du Sahel. L'Espérance s'est imposée dans la douleur 1-0 face au club sportif facien grâce à un but de son défenseur central Chamsdine Daoudi. Le Dauphin, l'Étoile sportive du Sahel, s'est imposée 4-1 face à l'Étoile de Metlaoui. Le titre se jouera donc lors de la dernière journée à Rades. 27e journée en Afrique du Sud et le match au sommet a vu Mamelodi Sundowns aller battre Orlando Pirates 2-0. À 3 journées de la fin de ce championnat, le club de Pretoria reste deuxième avec 54 points derrière Wits University qui totalise lui 57 points.
Football toujours, mais de sable, Élisée, avec le mondial de beach soccer remporté par le Brésil.
Exactement, et les Brésiliens ont été sans pitié face à Tahiti, victoire 6-0. Le Brésil remporte ainsi sa 5e Coupe du Monde de cette discipline. Pour la petite finale, l'Iran termine 3e grâce à son succès 5-3 devant l'Italie.
Basketball, la NBA installe sa première académie en Afrique.
Oui, Idrissa, la Ligue nord-américaine de basket a installé son premier centre de formation sur le continent africain africain, précisément à Thiès au Sénégal. Et c'est avec le partenariat de la SEED Project que cette académie a vu le jour, pour permettre donc aux meilleurs joueurs africains de rester sur le continent et de profiter des infrastructures modernes de la NBA. Ils seront 12 joueurs âgés entre 14 et 16 ans à intégrer cette académie. Et puis, on reste toujours en NBA pour parler cette fois des playoffs. Et avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit.
Conférence Est, Washington a encore battu Boston 121 à 102 pour égaliser avec les Celtics, 2 victoires partout. Pour sa part, Cleveland a éliminé Toronto en remportant pour la 4e fois consécutive la victoire, cette fois-ci 109 à 102. Conférence Ouest, Houston a égalisé sa série avec San Antonio, 2 victoires partout en battant les Spurs, 125 à 104. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et Dan Albertson à la réalisation.